Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Les 35 heures totem ou tabou. Il y a 20 ans, la France passait aux 35 heures de travail hebdomadaire. Ça a été un bouleversement pour la société, pour les entreprises. Depuis, la législation a beaucoup évolué. Il y a eu des aménagements, mais les 35 heures sont toujours là. Chez les Britanniques, on travaille plus, 39 heures par semaine, dimanche compris. Ça peut monter jusqu'à 48 heures par semaine, avec une pause de 20 minutes si vous travaillez plus de 6 heures d'affilée. Et vous avez le droit à 28 jours de congé par an. Mais depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne avec le Brexit, ça pourrait bien changer. Les explications de Marie Billon.
Actuellement, la durée maximale d'une semaine de travail au Royaume-Uni est de 48 heures, avec la possibilité d'un opt-out, de travailler plus si employeurs et employés sont d'accord. C'est le maximum autorisé par l'Union européenne. Aujourd'hui, les droits des travailleurs sont menacés par le Brexit de Boris Johnson. C'est ce qu'affirme le Parti travailliste, pour qui c'est un cheval de bataille. Le respect de la directive européenne sur le temps de travail a même failli faire l'objet d'un compromis avec l'ex-première ministre Theresa May. Mais elle a démissionné et Boris Johnson a été élu. Les droits des travailleurs sont donc passés au second plan. Le respect de la directive a été effacé de l'accord légal du Brexit et a été placé dans la déclaration politique. Un texte qui propose des objectifs, mais qui n'engage personne à rien. Boris Johnson a promis de maintenir les plus hautes normes de protection sociale, mais plus rien ne l'y contraint. Si Londres y voit un intérêt économique, elle pourrait donc être tentée de prendre ses distances avec la législation européenne pour mieux la concurrencer. La question est déjà évoquée entre Londres et Bruxelles. Pour l'heure, Boris Johnson a promis que si l'UE décidait de modifier la directive sur le temps de travail, il demanderait l'avis du Parlement britannique pour voir s'il veut faire de même, aux députés donc de décider au cas par cas.
Is the HSE fit for purpose? I think there are a lot of really good people working in the HSE.
Yeah. And is it fit for purpose?
It's not the best.
Am I right?
I think there are a lot of really good people working in the HSE.
Yeah. And is it fit for purpose? Am I right?
L'Irlande vote samedi. Le Premier ministre Leo Varadkar a convoqué des élections législatives anticipées pour ce 8 février et il espère bien rester au pouvoir pour conduire les négociations sur le Brexit sur le point de reprendre. Il faut dire que jusqu'ici, Leo Varadkar a joué un rôle tout à fait décisif dans ce dossier, Juliette Gerbrand.
Leo Varadkar, c'était un peu l'homme de la nouveauté à son élection. Premier chef de gouvernement né d'un parent immigré, premier chef de gouvernement ayant annoncé son homosexualité, il est aussi le plus jeune Premier ministre puisqu'il a pris ses fonctions à l'âge de 38 ans. Et trois ans plus tard, il annonce des élections anticipées.
J'ai toujours dit que les élections devaient avoir lieu au meilleur moment pour le pays. Et ce moment, c'est maintenant. Nous avons un accord sur le Brexit. Nous sommes sûrs à présent que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 janvier de façon ordonnée.
Leo Varadkar estime qu'il a une fenêtre de tir pour le scrutin avant que les négociations ne reprennent. C'est lui qui, depuis trois ans, gère l'immense défi du Brexit. Un défi à sa mesure, estime Christophe Gillissen, professeur d'études irlandaises à l'université de Caen.
Leo Varadkar, physiquement, est assez impressionnant. Je crois qu'il mesure 1m94. Il a une présence et une force de caractère, une capacité de travail qui en impose, qu'il a su mettre au service de son pays pour gérer une crise dont les retombées sont absolument considérables pour l'Irlande. Et je pense que Leo Varadkar a joué un rôle tout à fait décisif.
Look décontracté, le leader du parti Fine Gael se revendique ni de droite ni de gauche, comme Macron et Trudeau, selon ses mots. Il a marqué l'histoire de l'Irlande en permettant de dépénaliser partiellement l'avortement en 2018 et ses résultats économiques sont bons. Mais malgré tout cela, son parti recule dans les sondages. Ce sont les questions sociales qui l'ont rattrapé, explique Micheál Lehan, journaliste politique à la RTE, radio-télévision irlandaise.
Leo Varadkar était très populaire quand il a été élu. Depuis, les choses ont changé. Ce qui va être déterminant, semble-t-il, dans cette élection, c'est le problème majeur du manque de logements et du nombre de sans-abri.
Et dans ce contexte, beaucoup reprochent à Leo Varadkar son manque d'empathie.
Il est considéré comme quelqu'un qui est coupé des problèmes des gens, indifférent. Que ce soit juste ou non, c'est une autre question, mais cette perception pèse beaucoup sur lui en ce moment.
Le Premier ministre en est conscient. Il a déclaré qu'en cas d'échec aux élections, il prendrait la tête de l'opposition, un costume pas très bien taillé.
Ce serait très différent. Il n'en a pas vraiment l'expérience. Faire la tournée des sections locales à travers le pays, reconstruire les structures du parti, ce n'est pas forcément un rôle dans lequel on l'imagine.
Mais avec un parlement de plus en plus fragmenté, Michal Lehane estime que Leo Varadkar pourrait bien garder son poste quoi qu'il arrive.
Même si le vote pour le Fine Gael que dirige Varadkar est en baisse, les discussions pour former la nouvelle équipe au pouvoir risquent d'être longues et on ne peut pas écarter la possibilité qu'il devienne à nouveau Premier ministre, parce qu'il va être très compliqué de former un gouvernement.
Un autre facteur pourrait jouer en faveur de Leo Varadkar, un bosseur de dossier. Sa stratégie sur le Brexit a été largement soutenue par une très grande partie de la classe politique et des électeurs. Or, les négociations sur les futures relations entre l'Irlande et le Royaume-Uni ne font que commencer.
Portrait d'une figure montante de la politique européenne, la Hongroise Katalin Cseh, qui incarne l'opposition au Premier ministre Viktor Orban. Katalin Cseh a été élue pour la première fois en 2019. Elle fait partie des 20 eurodéputés les plus jeunes et les plus ambitieux, selon le journal Politico, Florence Labruyère.
À 31 ans, la Hongroise Katalin Cseh est l'une des députées les plus jeunes du Parlement européen. Cette brune souriante est gynécologue de formation. Elle a exercé son métier pendant 2 ans, mais le délabrement du système de santé dans son pays l'a poussée à s'engager en politique. Elle raconte souvent que lorsqu'elle était étudiante en médecine, elle a été obligée d'opérer des patients sans avoir été formée pour le faire. Avec des amis de son âge, elle a fondé Momentum, un nouveau parti centriste en Hongrie. Pro-européen et fédéraliste, Momentum a fait une percée spectaculaire aux élections européennes de 2019. Il a obtenu 10% des voix. Tête de liste du parti, Katalin Cseh a été propulsée eurodéputée sans même avoir été parlementaire dans son pays. Elle siège aujourd'hui sur les bancs du groupe Renew Europe, dont elle est l'une des vice-présidentes. Katalin Cseh est une battante qui n'a pas sa langue dans sa poche. Très présente sur les réseaux sociaux, elle utilise la tribune du Parlement européen pour dénoncer la faillite de l'état de droit en Hongrie, la mainmise du gouvernement sur les médias et la corruption du clan au pouvoir. Elle fait partie de ces jeunes eurodéputés qui veulent réformer les institutions communautaires. Elle appelle de tous ses voeux la création d'un parquet européen anticorruption. Mais cette jeune indignée est peut-être un peu trop idéaliste, estime le journal Politico. Pour faire avancer les choses, il lui faudra s'armer de patience et faire l'expérience des longues négociations et des tractations en coulisses. Bref, l'expérience de la politique.
Depuis le mois de novembre, Pernik, en Bulgarie, manque d'eau. Le lac qui alimente la ville est presque entièrement à sec. Il a fallu passer au rationnement de plus en plus drastique. Et ce n'est pas le réchauffement climatique ou la sécheresse qui sont en cause, mais la mauvaise gestion. Le ministre de l'Environnement a même été arrêté et accusé de négligence criminelle. C'est un reportage de notre correspondant à Sofia, Damien Vodenichov.
Les enfants à la maternelle de Kalina Malina s'éveillent de leur sieste. La directrice, Mihaela Ivailova, fait le tour de l'établissement.
Vous allez où comme ça?
On va chanter au salon.
Ok.
Il est 15h et il devrait déjà y avoir de l'eau courante. Pas de chance, le robinet ne fait que gronder, mais pas une goutte ne tombe.
Rien. D'habitude, l'eau revient vers 15h, 15h30, mais il arrive qu'il y ait des retards, comme aujourd'hui. J'espère qu'elle arrivera bientôt pour qu'on puisse remplir les récipients pour demain. La maternelle est ouverte jusqu'à 19h et on doit essayer de tout remplir et nettoyer pour le lendemain.
Le personnel doit parfois rester bien après les heures d'ouverture pour remplir les gros bidons. Les récipients sont désinfectés au chlore, mais pas question de prendre le moindre risque.
La mairie nous fait livrer de l'eau minérale pour la consommation et pour la préparation des repas. L'eau du robinet est destinée à l'hygiène. On nettoie, on lave, on désinfecte et on remplit les bidons pour avoir assez d'eau pour le lendemain.
Finalement, l'eau arrive avec presque une heure de retard. Depuis un mois, le rationnement est devenu encore plus strict. À présent, il n'y a de l'eau courante que 7 heures par jour, de 15h à 22h. Pas étonnant avec le niveau du lac Studena qui a presque atteint son niveau minimum. En ce moment, il contient 3 millions de mètres cubes, sa capacité totale est de 20 millions. Le rationnement a commencé en novembre 2019. La pénurie s'annonçait déjà alors que le lac était à moitié plein. Le principal suspect, les usines et les centrales thermiques qui sont alimentées par la même source que les particuliers. Un employé de l'entreprise de gestion des eaux venu nous aborder près du barrage nous fait part d'une autre théorie. Les autorités locales à Pernik n'ont pas voulu rationner l'eau avant les élections municipales, de peur de perdre des voix.
Écoutez, nous envoyons des rapports tous les jours, on mesure le niveau tous les jours et on envoie les données au préfet, à la municipalité. Ce sont des documents officiels. On savait ce qui s'annonçait depuis l'été. On aurait pu prendre des mesures plus strictes, mais le fait est qu'il y avait les municipales en octobre. Sinon, l'affaire se serait déroulée autrement.
Tout ça, c'est à cause des municipales, selon vous ?
Oui, oui.
L'industrie nie être à l'origine de la crise plutôt que la mauvaise gestion. 65% de l'eau destinée à Pernik est effectivement perdue en raison de nombreuses fuites. Mais Stanislav Dimitrov, le maire de la ville fraîchement élu, veut placer les entreprises face à leurs responsabilités.
Il s'agit de grandes entreprises qui doivent chercher une autre source d'eau sur le long terme, avec des forages par exemple. Sinon, on pourrait se retrouver dans la même situation dans quelques années. Ce genre d'entreprise ne peut pas compter uniquement sur notre lac d'eau potable. C'est au parquet de dire si ces entreprises ont été approvisionnées de façon illicite.
Soupçon de corruption, manœuvre politique, l'affaire a coûté son poste au ministre de l'Environnement, Neno Dimov, qui a été arrêté et accusé de négligence criminelle dans l'affaire de la pénurie d'eau. L'enquête est en cours, une restructuration de la gestion des eaux a été annoncée par le gouvernement. Les poids lourds de la politique bulgare se sont emparés de l'affaire, comme le Premier ministre Boyko Borissov et le procureur général Ivan Gechev. Mais le quotidien des 90 000 habitants de Pernik ne change pas. Il reste assez d'eau pour un mois, alors que l'approvisionnement de secours à travers la canalisation de la capitale Sofia ne sera prêt que dans 40 jours.
Au Portugal, Lisbonne a réussi à diviser par deux sa facture d'eau en réparant les canalisations de la ville. Des bonnes pratiques qui ont permis à la capitale portugaise de se voir décerner le titre de capitale verte européenne pour 2020. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
La révolution bleue de la mairie de Lisbonne s'est faite de manière plutôt discrète, goutte à goutte. Elle a réussi à faire passer sa facture d'eau annuelle de 8 millions d'euros à 4 millions. Une politique qui tient en un slogan pour la mairie. On ne peut pas faire du vert sans le bleu de l'eau et sans le jaune de l'énergie. Pour l'eau en ville, cela a commencé par un véritable travail de recherche sur les points de rupture du réseau de canalisation. Les fuites, une fois isolées, ont pu être réparées. Parfois, il a fallu imperméabiliser des lacs artificiels ou des étangs. Mais ce sont les systèmes d'arrosage qui ont concentré les efforts. Grâce aux smart meters, des compteurs électroniques dernière génération, comme le Waterbeep, créé par EPAL, la compagnie des eaux, le gaspillage a pu être endigué. Avec des données fournies de 15 en 15 minutes, les interventions se font quasiment en temps réel. Il a fallu aussi procéder à la rénovation de ces systèmes d'arrosage des lieux publics dont une ville au climat quasi méditerranéen ne peut se passer. Quand elles n'ont pas été tout simplement changées, les canalisations ont été dotées de valvules intelligentes. Reliées à des capteurs météo par des antennes du type LoRa, elles permettent de réguler le débit en fonction des besoins. Des parcs et des jardins ont pu ainsi économiser entre 15 et 48% d'eau. Lisbonne aujourd'hui veut aller plus loin et consacrer les eaux usées à cet arrosage public. La ville va investir 16 millions d'euros dans ce système. Un nouveau parc urbain, des jardins horticoles, des semis de plantes dévoreuses de CO2. Les idées ne manquent pas. Lisbonne, construite à l'embouchure d'un fleuve et à quelques encablures de l'océan Atlantique, veut aussi s'épargner le traumatisme futur de la montée des eaux comme conséquence du réchauffement climatique. Elle va donc investir 700 millions d'euros pour lutter contre les inondations, dépolluer le Tage et le réguler.
Belgrade s'est mise à son tour à manifester contre la pollution de l'air. La capitale serbe, comme tous les Balkans, paie sa dépendance au charbon. Mais les citoyens, plus conscients des risques pour la santé, commencent à s'impatienter. Louis Seyé.
L'air est un peu meilleur cet après-midi à Belgrade, mais Maxime se méfie du brouillard qui tombe sur la ville. Cet étudiant est venu protester contre les brumes toxiques qui ont enveloppé la capitale serbe ces derniers jours.
L'air était vraiment irrespirable. À certains moments, j'ai été pris de vertige. On ne pouvait pas voir à plus de 20 mètres ni distinguer la hauteur des bâtiments. Maintenant, ça s'est un peu dégagé, mais ça reste un vrai problème. C'est vraiment le pire épisode de pollution qu'on ait connu ces dernières années.
Comme des milliers de Belgradois, Maxime s'est rué sur les masques, tout juste mis en vente dans les pharmacies et rapidement épuisé.
J'ai acheté ce masque avec filtre aujourd'hui parce qu'il n'y en avait pas auparavant dans nos pharmacies. Ça fait seulement quelques jours qu'ils ont commencé à en vendre, c'est pour ça qu'on a pu les acheter hier ou aujourd'hui. Ce n'est pas une solution permanente, mais c'est toujours mieux que de respirer cet air pollué.
Un peu plus loin, au milieu du millier de personnes qui se massent devant l'hôtel de ville, Marina réajuste son masque vert. Sur son smartphone, cette trentenaire aux yeux bleus montre l'application qu'elle utilise pour s'informer de la qualité de l'air. Ces derniers jours, Belgrade s'est classée dans le top 10 des villes les plus polluées au monde, aux côtés de Pékin, Sarajevo ou New Delhi.
Je pense que la pollution de l'air est bien pire que les années passées. Et je demande des mesures concrètes pour que l'on trouve des solutions à ce problème. Je ne peux pas croire que nous sommes en 2020 et que nous vivons dans l'une des villes les plus polluées d'Europe.
Membres du collectif citoyen Ne laissons pas couler Belgrade, Dobrica Veselinovic est l'un des organisateurs de la manifestation. Pour lui, les autorités serbes ne sont pas à la hauteur de la situation. Selon les Nations Unies, la pollution de l'air coûte plus d'un an d'espérance de vie aux citadins des Balkans occidentaux.
Les autorités annoncent seulement que le Kosava, ce vent fort, va s'occuper de la pollution et résoudre le problème. En fait, elles ne font absolument rien. La majorité de notre électricité provient du charbon, donc nous appelons à une transition énergétique vers des solutions plus durables, comme le solaire ou l'éolien. Et à court terme, nous demandons un système de transport plus durable, de sortir de la stratégie du tout voiture dans notre quotidien.
Une transition vers un air plus sain qui s'annonce difficile. Mirjana Jovanovic travaille au sein de la Coalition 27, un groupement d'ONG qui suit de près ces questions environnementales dans les négociations d'intégration de la Serbie à l'Union européenne. Elle aussi dénonce l'inaction des autorités serbes.
Bon, malheureusement, je dois dire que les autorités n'ont pas fait grand-chose pour résoudre ce problème. L'instrument de politique publique le plus important, c'est la stratégie pour la qualité de l'air, et il n'est toujours pas disponible. Il devait être prêt en 2013, puis en 2015, et nous l'attendons toujours. En l'absence de ce document, des actions existent ici ou là, mais il n'y a pas de stratégie de travail cohérente. C'est simplement de la réaction face au problème.
Face à ce nouveau pic de pollution, le président serbe a annoncé des mesures à long terme, mais a déjà prévenu. Les effets ne seront pas visibles avant 6 à 7 ans. Des réponses qui ont du mal à passer auprès de l'opinion publique. Beaucoup voudraient enfin sortir du charbon. Mais alors que le pays espère toujours intégrer un jour l'Union européenne, un changement de politique énergétique n'est pas vraiment au programme des autorités. Comme l'explique Mirjana Jovanovic.
Notre stratégie de développement énergétique indique que le charbon est une ressource énergétique importante sur laquelle nous pouvons compter bien au-delà de 2050. Mais 2050, c'est l'année où l'UE veut devenir neutre en émissions de carbone. Donc si nous misons sur le charbon, ça ne va pas marcher.
Contrairement à la plupart des pays de l'Union européenne, Bosnie, Macédoine du Nord ou Serbie envisagent la construction de nouvelles centrales au charbon dans les prochaines années. Et pour financer ces projets coûteux et polluants, c'est désormais vers la Chine que se tournent les dirigeants de la région.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.
RFI.